Merci d'écouter Radio France Internationale, 4h30 à Paris, 3h30 temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Les dirigeants du Soudan du Sud sont sur le point de retomber dans un conflit généralisé. Le cri d'alarme de l'ONU cette nuit en réaction à l'arrestation du vice-président Riek Machar, selon son parti, par les forces du président Salva Kiir. De quoi mettre en péril l'accord de paix fragile signé en 2018. Au Soudan, c'est le résultat d'une offensive lancée il y a 6 mois par l'armée soudanaise. Son chef, le général Al-Burhan, a revendiqué hier ce qu'il qualifie de libération de la capitale Khartoum, reprise aux mains des paramilitaires FSR, décryptage à suivre. En Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal connaîtra le verdict de son procès ce matin. 10 ans de prison ont été requis à son encontre. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 mois après la prise de Goma par l'AFC M23, le groupe armé souhaite lancer un nouveau système financier alors que les banques commerciales sont toujours fermées sur ordre de Kinshasa. Le Soudan du Sud fait un pas de plus vers le précipice de la guerre civile. Hier soir, selon son porte-parole, le premier vice-président Riek Machar a en effet été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises du président Salva Kiir. Les conditions exactes de cette détention ne sont pas claires, mais alors que l'accord de paix se fragilise encore, l'ONU alerte et dit craindre un retour à un conflit généralisé. Florence Mieto.
C'est une évolution de la crise politique au Soudan du Sud aussi crainte qu'attendue. Les rumeurs d'une arrestation imminente de Riek Machar allaient bon train depuis début mars, lorsque la crise dans la région du Haut-Nil, au nord-est du pays, avait conduit à l'arrestation de plusieurs officiels de son parti à Djouba. Le placement du leader d'opposition en résidence surveillée fait planer un doute très important sur le processus de paix sud-soudanais. Cette détention constitue une violation de l'accord de paix, selon Pal Maïdeng, porte-parole du parti de Riek Machar. Il appelle la communauté internationale à s'assurer de la sécurité physique de Riek Machar. Nicolas Haysom, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a réagi dans un communiqué. Les amendements unilatéraux à l'accord de paix risquent de ramener le pays à un état de guerre. Cela ne va pas seulement dévaster le Soudan du Sud, mais la région tout entière. Fin de citation. La crise politique actuelle s'est envenimée lorsqu'une milice Nuer, réputée proche de Riek Machar, a pris une base de l'armée sud-soudanaise à Nassir début mars, puis tué son commandant ainsi qu'un pilote de l'ONU. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Après pratiquement 2 ans de guerre civile au Soudan voisin, l'armée régulière revendique une prise majeure, celle de Khartoum. La capitale est libérée, a même déclaré son chef, le général Al-Burhan, hier soir à la télévision nationale. Après le palais présidentiel, l'armée soudanaise a annoncé avoir repris l'aéroport de la capitale. Un enchaînement de succès face aux paramilitaires FSR ou RSF en anglais qui marque l'aboutissement d'une offensive démarrée il y a 6 mois, comme l'explique Clément Desailles. Il est anthropologue à l'IRD.
L'offensive de l'armée, en fait, elle commence dès septembre dernier. Il s'agit des offensives de la fin de saison des pluies. L'année passée, c'était les RSF qui avaient été à l'offensive et qui avaient gagné beaucoup de terrain. Et dans un premier temps, l'armée avait été capable de récupérer une partie du terrain perdu l'année précédente face aux forces de soutien rapide. Et depuis la mi-janvier notamment, il y a une pression qui s'est accrue sur Khartoum avec cette volonté d'encercler les RSF. Donc d'abord, ils ont commencé par attaquer par Khartoum Nord. Ensuite, ils sont remontés de la Jezira pour progressivement encercler les RSF. Et ces derniers jours, le temps s'est un petit peu accéléré puisque l'armée avait réussi à reconquérir le centre-ville de Khartoum qui était tenu depuis le début du conflit par les forces de soutien rapide. Et ce qui se déroule aujourd'hui a l'air d'être une fuite complète des RSF de la ville de Khartoum. J'utilise le conditionnel parce que on est encore aux premières nouvelles de cet événement.
Clément Desailles interrogé par Wely Diallo. À Madagascar, les Kreni comme dernier rempart contre la mort par la faim. Kreni, c'est l'acronyme pour Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensif. À l'occasion de l'ouverture du sommet Nutrition pour la croissance à Paris, aujourd'hui, RFI s'intéresse à ces lieux où sont pris en charge les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. La Grande Île compte 76 de ces centres qui sont financés essentiellement par les bailleurs de fonds et qui ont de plus en plus de travail à cause de la sécheresse et des épisodes de famine récurrents dans le Grand Sud de l'île. Le nombre d'admis a en effet effet plus que triplé entre décembre et février, passant à 7560 admis. Le centre de Tuléar, notamment, n'est pas épargné. Reportage sur place de Sarah Teto.
Félix gît sur le matelas en plastique du créni. Le petit garçon de 17 mois a les yeux ouverts, mais le regard absent. Immobile, il n'a même plus la force de cligner les yeux pour chasser les mouches trop envahissantes. Il y a une semaine, explique sa maman, il s'est évanoui.
Ensuite, il a vomi et il a eu la diarrhée. Je suis allée voir une tradipraticienne, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors, je l'ai amené à l'hôpital. Il était toujours inconscient et on nous a admis ici.
L'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. S'il suit le traitement de bout en bout, il aura 60% de chances de s'en sortir, indique l'infirmier qui s'occupe de lui.
Il était très 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 faible au moment qu'il était venu ici. On lui a donné de l'oxygénothérapie pendant 6 jours. C'est déjà 3 jours qu'il est réveillé, mais pas normal. Les médicaments, ce sont des antibiotiques et du lait thérapeutique introduit par la sonde.
Depuis décembre, les centres dédiés à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère ont enregistré une très forte hausse d'admission due en partie à la période de soudure. Les stocks de nourriture sont quasi épuisés dans les campagnes et la prochaine récolte n'aura pas lieu avant début mai. Mais le nombre d'enfants admis a aussi doublé par rapport à l'an dernier. L'UNICEF mène actuellement une enquête nutritionnelle pour en déterminer les causes. Et ce qui alerte encore plus, c'est l'augmentation sans cesse croissante de patients citadins comme Félix, preuve que cette pathologie ne touche plus seulement les habitants de la Brousse. Sarah Teto, de retour de Tuléar, RFI.
Il y a 2 mois, le 26 janvier dernier, Goma passait sous contrôle de l'AFC M23. Depuis, Kinshasa a ordonné la fermeture de toutes les banques commerciales de la capitale du Nord Kivu. Alors certains habitants arrivent quand même à retirer de l'argent au Rwanda voisin ou en transférer de façon numérique, mais sans accès aux guichets, les retraits et dépôts en agence sont devenus impossibles à Goma, de quoi fortement perturber l'économie locale. C'est donc dans ce contexte que l'AFC M23 souhaite désormais créer son propre système financier, Passion Ligodi.
L'AFC M23 prévoit de mettre en place une structure parallèle baptisée Autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances. D'après les informations de RFI, cette structure est déjà créée sur papier. Elle devrait jouer le rôle d'une banque centrale dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali souhaite également réactiver la CADECO, une institution financière publique congolaise considérée par plusieurs experts comme quasiment à l'arrêt. La rébellion a nommé une direction parallèle avec l'objectif d'en faire la principale banque de la zone sous son contrôle. Les recettes fiscales collectées par l'administration de l'AFC M23 devraient y être versé. Des consignes ont été données aux changeurs de monnaie et aux opérateurs économiques locaux pour ouvrir des comptes au sein de cette structure. Mais ce système se heurte à plusieurs obstacles majeurs selon les experts contactés par RFI, notamment l'absence de connexion aux banques de correspondance internationale et les restrictions du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent. De son côté, l'AFC M23 envisage de s'appuyer sur des pays voisins, principalement le Kenya, le Rwanda ou encore l'Ouganda. Mais une question se pose, ce projet peut-il vraiment voir le jour ? Tout dépendra, répond un expert, du degré d'isolement international de l'AFC M23 et de la réaction des pays et banques de la région.
Patient Ligodi. En Algérie, Boualem Sansal connaîtra son sort ce matin. Le juge devant lequel l'écrivain franco-algérien a été présenté la semaine dernière doit rendre son verdict aujourd'hui. 10 ans de prison ont été requis, notamment pour atteinte à l'intégrité territoriale à cause de propos sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc. L'essayiste est incarcéré depuis la mi-novembre. À Djibouti, c'est un ancien ministre du budget qui est passé derrière les barreaux depuis maintenant 3 ans. Depuis son arrestation en mars 2022, Abdoulkarim Adencher est détenu dans la prison centrale de Gabodé. Il avait été accusé de corruption après avoir critiqué le président Ismaïl Omar Guelleh. Dans un récent rapport, le groupe de travail sur les détentions arbitraires du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a demandé la libération de l'ancien membre du gouvernement. Pour ses experts, sa détention est arbitraire. C'est aussi ce que pense Jean Louchal. Il préside l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti.
Il a été arrêté alors qu'il était au poste de ministre, soi-disant pour des faits de corruption qu'il a lui-même dénoncé. C'est-à-dire qu'il dénonçait la corruption généralisée qui est réalisée par les membres du gouvernement et ça s'est retourné contre lui par la grâce du président qui a toute main sur la justice à Djibouti. Nous avons très peu d'informations sur sa santé. Tout laisse à penser qu'il va mal. La commission de détention arbitraire de l'ONU demande au gouvernement djiboutien de libérer immédiatement Abdulkarim Adancher, de l'indemniser et, je le dis en riant, de rechercher les causes du dysfonctionnement de la justice. C'est bien la confirmation que la détention de Abdulkarim Adancher est arbitraire et uniquement politique et qu'elle doit cesser.
Jean-Loup Chal avec Paul Lorgerie au téléphone. Dans l'extrême nord du Cameroun, la demande de pardon de tout un village du Mayo Tsanaga. Après le lynchage de 3 personnes en début de mois, 2 jeunes chercheurs et leur accompagnateur, arrêtés par erreur, avaient été tabassés puis brûlés vifs sur la place du marché, confondus par les habitants avec des djihadistes du groupe Boko Haram. Pour faire part de ces remords, de leurs remords, les villageois ont donc organisé dimanche dernier une cérémonie à laquelle a assisté notre correspondant Polycarpe Somba.
En guise de cérémonie, c'était un recueillement avec des prières et des cantiques pour implorer et conjurer le sort après les événements du 2 mars 2025.
Tout le monde regrette.
Les 2 chercheurs et leur guide avaient été arrêtés en plein jour près d'un lieu considéré comme sacré et malgré leurs supplications, leur mise à mort par le feu avait été prononcée sur le champ. Les raisons de la méprise rappelées par le prédicateur du jour.
La journée du 2 mars 2025, aux environs de 13h, 3 individus qui, selon la population, étaient assimilés à des malfrats venus pour planifier leur opération. Malheureusement, leur identité n'a pas été bien déclinée.
Depuis le drame, entre remords et demandes de pardon, le village de 5000 âmes est habité par un étrange sentiment de culpabilité partagé par tous.
Comme message, nous demandons pardon. Pardon à Dieu, pardon à tous les Camerounais.
Présent à cette cérémonie au nom du gouvernement, le ministre de la Santé Manaouda Malachi, qui est lui-même natif de la localité, a déclaré qu'aucune justification ne peut être acceptée pour une telle tragédie et que plus jamais cela ne se reproduirait.
Il fallait un peu, à travers la parole de Dieu, solliciter la purification divine. Nous avons imploré ensemble cette miséricorde divine, cette bonté de Dieu pour que nous puissions être non seulement pardonnés pour ce péché, mais pour que la communauté soit également purifiée. Donc je peux vous dire, ça ne pourra plus arriver.
Reste à voir le sort que les familles des victimes donneront à cette demande de pardon. Polycarpe Somba de retour de Mbalda par Marois, RFI.
S'inviter parmi les plus grandes nations du football au prochain mondial, c'est un rêve qu'entretiennent les Comores dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Sélakantes sont 2e derrière le Ghana. Malgré une défaite contre le Mali, la victoire contre le Tchad mardi a ravivé la flamme et les supporters croient dur comme fer à une première qualification historique. Abdallah Mzembaba.
Ils ne sont plus en tête du groupe, mais les Comores restent dans la course. 2e avec 12 points, les Sélakantes surprennent encore et surtout, ils font rêver tout un peuple. Nassourdine Mohamed est supporter des Verts.
Oui, je suis confiant en tant que supporter. Tout est possible. On ne peut pas toujours dire que voilà, on va passer directement. Mais ce que je ressens, on ressent que le groupe est soudé, le groupe a envie de faire mieux. C'est ça le football. On aime toujours voir les petites nations déranger les grandes nations.
Une dynamique rendue possible par le travail de Stefano Cousine, le sélectionneur, et une équipe qui a su dépasser les crises pour retrouver son élan. Une évolution qui n'a pas échappé à Soadri Saïd, lui aussi supporter des Sélakantes.
En termes de bilan, c'est une satisfaction avant tout, car les Comores n'étaient jamais parmi les pays favoris. C'était le Mali et le Ghana. Il faut battre le Mali et faire un bon résultat contre le Ghana, même un nul, ça peut faire nos affaires. Et je peux ajouter aussi que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a aussi la possibilité d'être barragiste si on termine parmi les 4 meilleurs 2e.
En septembre et octobre prochains, les Comores vont affronter le Mali, puis le Ghana. 2 finales, 2 chances de changer l'histoire. Au départ, l'objectif c'était la qualification à la CAN. Aujourd'hui, celle au Mondial 2026 est possible pour le plus grand bonheur de tout un peuple. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
Moroni, où il est 6h44, 4h44 à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Au programme des 15 prochaines minutes, reportage sur ces prothèses sur mesure conçues en moins de 48 heures à Kinshasa grâce à un simple scanner par téléphone. Des pièces qui permettent à des patients amputés de réapprendre à se déplacer avec un coût bien moins élevé que pour des prothèses classiques. La chronique matière première nous emmène ce matin en Chine. C'est le plus gros importateur de viande dans le monde. En raison d'une production locale trop limitée, le pays asiatique n'a pas d'autre choix pour nourrir ses 1,4 milliard d'habitants que de faire venir bœuf, volaille et porc de l'étranger, notamment des États-Unis, et ce, malgré les différents commerciaux entre les deux pays. Et puis, c'est une usine qui s'apprête à sortir son 3000e catamaran de croisière en 34 ans d'activité au Cap, en Afrique du Sud. Robertson & Kane est devenu une référence dans le secteur. Visite guidée avec Valentin Hugues pour Afrique Économie. Une prouesse médicale et technologique pour simplifier la vie de patients amputés. En République démocratique du Congo, des prothèses locales sont utilisées par une équipe de kinésithérapeutes et d'orthopédistes afin de permettre à ces personnes à mobilité réduite d'apprendre à remarcher. Des dispositifs fabriqués sur mesure, imprimés en 3D et sur place à Kinshasa dans des temps records. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula.
Tu contractes les genoux, on y va.
Éric Bouilly, orthoprothésiste, est en pleine séance de rééducation. Devant lui, sa patiente réapprend à marcher avec une prothèse de jambe.
La masse telle qu'elle est là, c'est un cycle. Ça commence par l'attaque du talon jusqu'au décollement du pied. Et tout ça, il faudrait que la personne sache comment les faire. Et donc, on l'accompagne. Donc, avec toutes les consignes possibles.
Les mains agrippées à deux barres de maintien, Meda se familiarise avec sa nouvelle prothèse. À 10 ans, la jeune fille a perdu sa jambe après avoir été percutée par une voiture.
Toi, tu regardes devant. Devant toi. Merci.
Un large sourire aux lèvres, elle enchaîne les exercices qui lui donnent l'espoir de pouvoir jouer à nouveau avec ses copines à l'école.
Quand on sort la récréation, moi, j'assis ses mains, je regarde ses mains comme mes amis jouent. J'ai dit, c'est mal les jours que je vais prendre les prothèses. Moi aussi, j'ai commencé à jouer, je vais commencer à danser, je vais commencer à faire tout.
Dans ce centre de Kinshasa, les prothèses sont conçues sur place et en moins de 48 heures grâce à un simple téléphone qui scanne en 3D les moignons des patients.
Nous allons essayer de prendre le scan. Alors là, tu ne bouges pas.
Démonstration Martin Babadi, orthoprothésiste.
C'est de cette façon-là que je prends des mesures sur le patient sans utiliser le plâtre, sans utiliser le mètre ruban, mais avec les scans, avec les téléphones, je prends mon scan et puis c'est fini.
Les mesures sont ensuite modélisées sur un logiciel. Une fois validées, l'emboîture de la prothèse est imprimée en 3D. Avec cette technologie, les prothèses sont plus confortables et trois fois moins chères que les prothèses conçues dans des centres publics grâce à des financements partenaires. C'est ce qui a motivé cet ancien judoka venu pour sa première consultation.
Ici, on peut me faire une prothèse de qualité. C'est pourquoi je me suis présenté aujourd'hui. J'ai des prothèses, mais ça ne convient pas. On vous donne ça, mais vous n'arrivez pas à marcher avec ça. Et ça me permettra aussi de faire des mouvements sans béquilles.
En moins d'une année, l'entreprise a déjà appareillé plus de 150 patients. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Dans une minute, Afrique économie, mais avant cela, les principaux titres de l'actualité internationale de ce jeudi 27 mars, avec tout d'abord une trentaine de dirigeants attendus en France pour un nouveau sommet sur l'Ukraine. Paris et Londres veulent prouver à Kiev la pérennité de leur soutien en parallèle de l'initiative diplomatique des États-Unis. Volodymyr Zelensky lui est arrivé en France dès hier pour s'entretenir avec son homologue Emmanuel Macron, qui annonce d'ailleurs une nouvelle enveloppe de 2 milliards d'euros. Le dirigeant français estime qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager une levée de sanctions contre la Russie. C'est l'une des exigences de Moscou pour que soit appliquée la fin des hostilités en mer Noire. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, reconnaît d'ailleurs lui-même que parvenir à un accord de paix ne sera pas simple et que cela prendra du temps. Israël menace une fois encore de s'emparer de nouveaux secteurs de la bande de Gaza. Si le Hamas ne libère pas les otages, la reprise brutale des bombardements israéliens il y a une semaine a fait au moins 830 morts dans l'enclave selon le mouvement islamiste. Et puis, la Corée du Sud en proie aux pires incendies de son histoire. Les feux qui ravagent le sud-est du pays ont causé la mort d'au moins 26 personnes selon le dernier bilan des autorités. Près de 36 000 hectares sont partis en cendres et le feu continue de se propager rapidement selon le chef de la division des catastrophes et de la sécurité. Les tensions douanières avec les États-Unis n'entament pas l'appétit chinois pour la viande. Des centaines d'installations américaines de porc et de volailles ont reçu le feu vert de Pékin pour continuer à exporter vers la Chine. Le géant asiatique, c'est le premier importateur mondial de viande, 7 millions de tonnes importées l'an dernier. Cela inclut le porc et la volaille donc, mais aussi le bœuf, un chiffre qui révèle une production locale toujours insuffisante pour nourrir une population d'1,4 milliard d'habitants, Cléa Broadhurst.
C'est une succession de gigantesques hangars, les outils résonnent et l'air sans la peinture.
Une fois que la forme du bateau est dessinée, on la façonne ici.
Face à nous, un moule immense, si grand qu'il faut monter plusieurs marches pour voir à l'intérieur. Nous sommes avec Stuart Forrest, ingénieur en chef.
Ensuite, il faut retirer le moule et sortir cette grande pièce principale pour passer aux étapes suivantes.
Après 34 ans d'activité, Robertson & Kane fêtera bientôt la sortie de son 3000e bateau, qui est là quelque part au milieu de la quinzaine de catamarans alignés les uns derrière les autres. Nous sommes dans le hangar d'assemblage du produit phare de Robertson & Kane, le Léopard 53PC.
La ligne de production évolue, on ajuste les procédures de construction pour trouver l'enchaînement le plus efficace, avec un séquençage. Ici, Nassieff supervise l'étape 3.
Oui, on intègre le moteur, on installe les sièges, la moquette et on s'occupe du plafond aussi.
Une entreprise attachée au fait main et un travail collectif qui rassemble plus de 2000 personnes. Ici, c'est comme une ville dans la ville avec de grandes allées et du monde partout.
Là, nous sommes presque au bout de la chaîne. On peut aller voir une des cabines.
Il faut 3 mois pour construire ces gigantesques catamarans à moteur d'une valeur de plus d'1 million d'euros.
Là, vous avez la chambre. Ce bateau va quitter l'usine la semaine prochaine. Ensuite, on fera tous les tests de vérification au port et il sera prêt à être affrété vers un autre pays.
Vers un autre pays, car 99% de la production est exportée, principalement vers les États-Unis et vers l'Europe. Théoulouk a pris les rênes de l'entreprise en 2021.
Au Cap, il y a une excellente articulation de l'industrie maritime avec de nombreux fournisseurs, pour les moteurs par exemple. C'est un port stratégique pour importer les produits dont nous manquons et exporter ceux que nous fabriquons. Nous avons aussi la chance d'avoir une municipalité qui nous soutient en favorisant de bonnes infrastructures. La population se passionne pour les bateaux et veut se former dans ce domaine. Ce sont tous ces éléments qui nous permettent de fabriquer nos bateaux au Cap.
Depuis le retour de Donald Trump et de sa politique protectionniste aux États-Unis, Robertson & Kane agit activement pour encourager les accords commerciaux entre les deux pays et faire en sorte que les exportations ne faiblissent pas. Valentin Hugues, de retour du Cap, RFI.
Ce n'était donc pas la chronique matière première de Cléa Broadhurst en Chine, mais bien le reportage Afrique Économie de notre correspondant Valentin Hugues. La chronique matière première, on y vient donc tout de suite avec effectivement ces feux verts de Pékin pour les installations américaines de porc et de volaille afin de continuer à exporter vers la Chine. Le géant asiatique, premier importateur mondial de viande, comme je vous le disais, 7 millions de tonnes importées l'an dernier, un chiffre qui révèle une production locale toujours insuffisante pour nourrir les 1,4 milliard de Chinois, Cléa Broadhurst.
Malgré son statut de géant économique, la Chine reste structurellement dépendante de ses approvisionnements étrangers. Depuis plusieurs années, Pékin essaye de réduire sa dépendance. L'agriculture est redevenue une priorité, mais les coûts élevés, les maladies animales et les difficultés dans les élevages empêchent le pays d'être autonome. Résultat, la Chine reste obligée d'importer et ses importations sont devenues stratégiques. Pour les États-Unis, le marché chinois est essentiel. En 2021, ils ont exporté pour 33 milliards de dollars de produits agricoles vers la Chine. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais ça reste élevé, 26 milliards de dollars. Même pendant la guerre commerciale de Donald Trump, les échanges ont continué. Ils ont même parfois augmenté, notamment en 2019, à cause de la peste porcine en Chine, comme l'explique l'économiste spécialisé des marchés agricoles, Jean-Paul Simier.
Il y a les discours, il y a les postures, et il y a le business, et il y a les obligations économiques. Et donc, si vous voulez, c'est un jeu un peu subtil, en fait, entre les deux pays. C'est « je t'aime, moi non plus », dépendance réciproque, et donc on continue à commercer, puisqu'on n'a pas trop le choix de part et d'autre. En plus, je rappelle que le monde agroalimentaire américain est un des principaux soutiens au président Trump, donc évidemment que c'est très délicat pour les États-Unis, et c'est très délicat aussi pour la Chine, puisqu'elle est dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements.
Mais Pékin cherche à varier ses fournisseurs. le Brésil et l'Australie, grands exportateurs de viande, prennent une place de plus en plus importante. La Chine adapte ses achats selon ses besoins et parfois pour faire passer des messages politiques. Elle impose plus de taxes sur les produits dont elle peut se passer et préserve ceux qui lui sont indispensables, comme le soja ou certaines viandes. Entre pragmatisme économique et stratégie commerciale, la Chine continue d'importer, mais à ses conditions.
La chronique matière première avec Léa Broderst. L'actualité française dans l'océan Indien avec les rédactions d'Outre-mer. La première, à la une, ce drame à Mayotte. Alex Léveillé, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour. Un enfant a perdu la vie hier après-midi dans la commune de L'Abattoir à Mayotte. Un incendie a ravagé une maison dans le quartier de Mousdalifa. Les victimes, 6 enfants, certains dans un état grave avec un pronostic vital engagé et un enfant décédé. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer l'origine du sinistre. La population du quartier est sous le choc. Et à La Réunion, l'élève de 14 ans tombé du 4e étage du collège Terrain Fleury au Tampon n'a pas survécu 24 heures après son admission à l'hôpital. L'enquête devra déterminer les raisons exactes du dramatique accident. Andri Racotandravola de Réunion la Première.
C'est le parquet de Saint-Pierre qui a annoncé son décès hier en début de soirée. Il n'a pas survécu à ses blessures. L'adolescent de 14 ans, en classe de 3e au collège Terrain Fleury, avait chuté du 4e étage d'un bâtiment de l'établissement. En urgence absolue, il a été transporté et hospitalisé au CHU de Saint-Pierre. Gravement blessé, son pronostic vital était engagé. Un événement malheureux qui a ému le monde de l'éducation. Une cellule psychologique avait été mise en place dans le collège.
Et toujours à La Réunion, l'épidémie de chikungunya approche de son pic. L'agence régionale de santé l'annonce pour le mois prochain. Et dans les laboratoires d'analyse, les délais d'attente s'allongent face au nombre croissant d'échantillons livrés. Paul-Émile Jean est biologiste médical. À Saint-Clotilde.
On réalise à peu près 4000 PCR chikungunya la semaine dernière et cette semaine on ira vers les 5000 tests je pense. Sur les 1000 prélèvements qu'on reçoit pour la recherche directe du virus, on est sur un taux de positivité proche de 60%. Le pic il est prévu pour mi-avril selon Santé publique France, mais pour l'instant on est bien dans l'épidémie.
Il y a aussi des gens en ce moment qui disent j'ai déjà eu le chic, je comprends pas, je l'ai nouveau alors que je devrais pas l'avoir.
Alors il y a 20 ans on n'avait pas toute cette technologie pour étiqueter l'infection à chikungunya. On s'est basé sur des signes cliniques pour beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment s'ils l'ont attrapé parce qu'il y a plein d'autres pathologies qui donnent ces mêmes signes cliniques. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que des tests de sérologie mais pas de PCR.
Combien de temps il faut attendre le moment de son analyse et le résultat?
L'analyse, elle dure 4 heures. Par contre, après, il y a tellement de monde que le patient, lui, il a ses résultats au bout de 1 à 2 jours. On a élargi nos horaires de travail afin de répondre à toutes les demandes.
Paul-Émile Jean, biologiste à Saint-Clotilde, est au micro de Claudette Vaiti-Lingan de Réunion la Première. Les 7 dernières communes de la Réunion privées de fibre optique ne le sont plus. La régie Réunion THB a terminé l'installation du réseau public. Cela représente environ 25 000 foyers dans les zones isolées. Et le taux de couverture de la Réunion est de 95% maintenant. Et la régie va maintenant pouvoir se consacrer aux câbles sous-marins et à la cybersécurité. Les précisions de Norman Omarji, président de Réunion. Réunion THD.
La régie THD, qui va s'appeler bientôt la Réunion Connectée, a en son sein désormais un service dédié en matière de cybersécurité. Donc c'est un élément qui est important avec la concertation de l'État. Et ensuite, dès lors que nous avons un territoire qui est fibré, donc vous avez donc des usagers qui vont être de plus en plus nombreux avec un développement économique qui va être rendu nécessaire. Donc nous avons besoin, pour ne pas être en saturation numérique, de câbles sous-marins pour pouvoir permettre cet usage numérique. Donc nous sommes sur effectivement un projet partenariat public-privé sur un câble sous-marin dont le dossier a été déposé devant la Commission européenne, dont nous espérons une réponse positive d'ici juillet-août.
Norman Omarji, président de Réunion THD, était au micro d'Erwan Poney de Réunion la Première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Excellente journée également, Alex Léveillé. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Réalisation Thierry Le Saint, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Dans une minute, toute l'actualité internationale, c'est avec Pierre Boudias. Merci d'écouter la Radio du Monde.
Oh. Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Cameroun, le RDPC célèbre ses 40 ans. L'occasion pour le parti au pouvoir d'organiser des rassemblements à travers le pays en soutien au président Paul Biya et pour les militants d'appeler leur leader à briguer un 8e mandat. Vos réactions nous intéressent.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Savez-vous que l'usage des forêts, les méthodes agricoles et la place des villes étaient déjà débattus au 19e siècle ? Voilà ce que nous apprennent nos invités historiens qui viennent de publier une histoire environnementale de la France de 1780 à 1870.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.